Bonjour Samuel.
Bonjour Nicolas.
Alors Samuel Dahan, Samuel, je suis ravi de te recevoir sur Comptoiria. Je voulais absolument faire cet épisode. Donc Sam, toi tu es prof de droit. Tu t'occupes aussi du labo de recherche sur l'IA et le droit de Deel. Donc Deel, une entreprise hyper intéressante sur la gestion des contrats de travail à distance, à l'étranger, pour les employés. Tu travailles sur le projet Open Justice AI. Donc tu vas nous en dire plus. Tu es prof à l'université de Cornell et à l'université du Queens. Tu as aussi un labo sur l'analyse des conflits. Voilà. Et en fait, ce que je disais, c'est que je pense que tu es une des seules personnes pour qui LLM veut dire deux choses, à la fois master de law, de droit, et large language model. Et vous ne devez pas être si nombreux sur la planète. Bon, quelques-uns peut-être. Merci à Norman aussi qui nous a présenté. C'était trop sympa, donc on le salue. Et Samuel, donc je te propose pour commencer, donc qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment dans l'IA générative? Comment tu as vécu l'année 2023 et là le début de 2024?
Ouais. Non, c'est vraiment une question intéressante, parce que ça fait un petit moment que j'ai réfléchi. Donc, je suis dans ce domaine depuis un petit moment maintenant. Donc, à la base, comme tu dis, je suis juriste de formation. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'IA, quand j'étais doctorant, mais c'est à l'époque, on n'appelait pas vraiment ça l'IA, c'était plutôt juste les méthodes statistiques appliquées aux données juridiques.
C'est moins cool. C'est moins
Ouais,
cool.
c'est moins cool et ça marchait très mal aussi. Donc ça, c'est déjà aussi, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de carrière de recherche. J'ai travaillé pendant quelques années dans le secteur public, dans un cabinet avocat. Et après, je me suis retrouvé à la Cour européenne de justice pendant quelques années. Et là, y a eu un vrai décollage en 2015 avec les travaux de Yoshua Bengio et de Yann LeCun sur tout ce qui était machine learning. Et là, il y a eu une vraie évolution dans les performances de l'IA, surtout sur la capacité à exécuter des prédictions qui étaient quand même assez précises. Donc là, c'est à partir de ce moment-là où on a monté le labo local au Conflict Analytics. Et là, en fait, mais par contre, c'était quand même assez différent. C'était une époque assez différente parce que c'est une époque assez isolée où c'était contrairement à la période qu'on vit aujourd'hui, c'était quelque chose de pas du tout tangible en fait. Et là, c'est vrai ce que tu. Donc, pour revenir à ta question, en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec l'IA générative? En fait, c'est un peu une grosse claque pour tout le monde de dire voilà ce que l'IA peut faire. Okay. Mais non, après, moi, je l'ai vécu en 2023 aussi, je l'ai vécu dans deux manières. Donc, d'une part, c'était intéressant parce que la majorité de mes collaborateurs qui ne sont pas intéressés par l'IA, maintenant, ils comprennent enfin ce que je fais. Donc, ça, c'est sympa. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de. C'est un domaine qui devient très parasité parce qu'il y a quand même énormément de gens qui pensent qu'on peut trouver une solution à tout et n'importe quoi en 2 minutes et qui eux-mêmes veulent trouver des solutions. Donc, il va y avoir beaucoup. Je pense que ça va être très difficile aussi pour les clients. Bon, tout le monde veut intégrer l'IA en ce moment et ça va être très difficile parce que ils vont avoir du mal en fait à déterminer la qualité de la fumée. Et là, il y a énormément de fumée qui dans l'industrie, dans toutes les industries. Après, moi, je le vois dans le droit avec des applications qui sont des ChatGPT déguisés avec une interface juridique toute pourrie. Après, nous, c'est notre rôle en tant que
Un chat
chercheur.
GPT wrapper quoi, enfin
Ouais, c'est
non,
ça,
enfin,
un espèce de voilà,
on
espèce de
enrobe chat
façade.
GPT, on met un prompt juridique
Exactement.
et ok.
C'est ça. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense après aussi, et on peut parler de la réglementation. La réglementation va rien faire parce que la réglementation, elle sera trop lente par rapport à ça. Elle sera pas capable de déterminer les problèmes. Ça va trop vite. Donc, je pense aussi, c'est à nous aussi, les spécialistes de l'industrie, de faire notre travail de contrôle qualité. Et il va falloir faire un effort, mais c'est une bonne chose. Enfin, après, tout ça, c'est les travers d'une évolution qui s'est faite de manière assez violente en 2022-2023. Mais il va falloir faire un effort, en fait, toutes les communautés industrielles, donc la communauté juridique, la communauté médicale, elle va devoir faire un travail d'évaluation.
Oui, bien sûr. Ok, donc super intéressant. Donc il va falloir isoler, en effet, essayer d'isoler la hype sur laquelle on est, de ce qui se passe vraiment. Mais dans tous les cas, ça a été fou. Toi, tu l'utilises tous les jours aujourd'hui, l'IA, Sam ?
Oui, je l'utilise tous les jours. Après, nous, dans nos créations, on l'utilise tous les jours, mais aussi après dans les tâches journalières, surtout en tant que juriste, enfin, la recherche juridique, c'est des tâches qui impliquent des quantités assez volumineuses de documents, de textes. Donc, pour ça, pour ce genre de tâches, l'IA génératif est vraiment une révolution. Donc, en même temps, donc après, est-ce que c'est une révolution ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Moi, je dis d'un point de vue application, c'est une révolution. Vraiment, certainement, il y a des choses, et dans certains domaines, et pour certaines tâches. Là, par exemple, pour le raisonnement juridique, c'est une catastrophe. Pour certains, si on l'utilise mal aussi, pour certaines tâches de recherche, apparemment, c'est pas vraiment performant. Pour trouver des citations, c'est pas bon encore. Mais ce que les ingénieurs en informatique appellent la summarization, tout ce qui est donc compilation de textes, c'est du copier-coller à très haut niveau. Alors que c'est vrai qu'à certains égards, les juristes ont fait souvent beaucoup de copier-coller intelligent, hein. Mais c'est vrai que ça nous aide énormément. Donc il y a des côtés révolutionnaires sur ça.
Ouais, d'accord. Donc un impact profond, je comprends bien, sur ses capacités de résumer. Et toi, tu utilisais déjà en fait les premiers modèles GPT-3, du BERT et tout ça avant ou pas ?
Oui, alors BERT, on a créé un BERT juridique en 2019 et on a créé aussi en 2020, on a commencé à créer ce qu'on appelait à l'époque notre Smart Clinic qui est devenu Open Justice. On a créé une première version d'un IA génératif juridique. On a compris, mais qui était plus c'était pas un chat en fait, c'était plus un système de questions-réponses. Là, ce qui est intéressant en fait, ce qui est une révolution dans le chat GPT, c'est que tu peux faire un follow-up, tu peux faire un suivi des questions. Donc, tu poses une première question, si la réponse est mauvaise, tu fais une deuxième réponse. Ok, là, nous, ce qu'on avait fait en fait, c'était l'ancêtre de l'IA génératif, et un peu entre, disons, le Google et le chat GPT, c'est un système qui te crée des réponses, donc qui va les produire, qui va les générer, mais tu ne peux pas faire de suivi. Donc, on avait commencé à ça. Donc, là, c'est là aussi où…
D'accord. Donc, il n'y avait pas le mode conversationnel, alors, en fait.
Ce n'était pas conversationnel, c'est ça.
Ok, ok.
Donc, c'était un peu les ancêtres. Après aussi, nous, on était vraiment concentrés. Et je pense aussi l'industrie juridique et d'autres industries, et d'ailleurs, ce qu'on fait chez Deal aujourd'hui, et ce qui marche très bien et très, très utile, on était très concentrés sur le prédictif. Et ça, c'est un domaine qui marche très bien. On a développé des IA pour le ministère de la Santé, l'armée canadienne, donc la DIL, des cabinets d'avocats pour aider soit les juristes, soit les régulateurs à optimiser le calcul des dommages et intérêts, comprendre aussi, prédire les comportements des juges. Donc ça, c'était un domaine qui est vraiment, pour moi, qui était vraiment plus une révolution, mais qui est une révolution qui était moins accessible.
D'accord, donc tu fais des prédictions, oui, pour imaginer en fait ce que la décision d'un juge, les dommages et intérêts sur une affaire. Donc tu as des modèles statistiques, de l'IA prédictive, et à partir de et là-dessus tu fais des prédictions. Hyper intéressant, d'accord. Ouais.
C'est ça. En fait, on a commencé notre première application s'appelle My Open Court. C'est une application qui est spécialisée en droit canadien. Et c'est justement l'ancêtre de la technologie qu'on a développée pour Deal. Donc là, pour Deal, on s'est concentré principalement sur évidemment les questions de droit du travail, puisque Deal est un système de RH. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est d'aider Deal et surtout les clients de Deal de minimiser les risques de requalification des employés. Donc, en fait, c'est vraiment une question assez simple en droit du travail pour les RH. Est-ce que tu as Nicolas, tu veux me recruter? Je vais travailler 3 heures par semaine pour toi, mais je suis basé au Canada. Donc, est-ce que je vais être travailleur indépendant ou est-ce que je vais être employé? Mais il y a des questions, enfin, il y a des règles. C'est pas assez. En fait, souvent, les employeurs pensent que le statut est déterminé parce que, bon, en fonction de la du bon vouloir de l'employé et de l'employeur, sachant que l'employé n'a souvent pas vraiment le choix. Donc, il y a des éléments et il y a beaucoup de jurisprudence sur la question. Donc, on a entraîné des modèles. Donc là, on a couvert une dizaine de systèmes juridiques.
Ah, oui.
Le Canada, les États-Unis, même les Philippines, la France, la Hollande. Et l'idée, en fait, c'est de couvrir les 120 juridictions sur lesquelles Deal, dans lesquelles Deal opère.
Waouh, parce que Deal, pour ceux qui ne connaissent pas, Deal, c'est une décacorde. Hein. Deal a levé récemment 50 millions de dollars, mais il y a eu déjà des levées précédentes avec des fonds prestigieux, genre Andreessen Horowitz, sur une valorisation de 12 milliards de dollars. Donc, c'est la boîte aussi de Alex Boisiz, donc c'est très très impressionnant. Mais au-delà de ces chiffres-là, ce qui est intéressant et impressionnant, c'est en effet la complexité juridique à gérer par ces populations de freelancers, de remote workers, avec des droits du travail très différents dans chacun des pays. Et je comprends, ouais. Donc des risques de requalification. Et donc toi, tu travailles sur un labo de recherche IA pour
différents systèmes. Exactement. Nous, notre mission, c'est de développer des tech de compliance dont notamment la requalification, c'est l'élément principal, parce que c'est un sujet aussi important pour Deal. La mission principale de l'entreprise, c'est de faciliter le recrutement, mais aussi d'aider les employeurs à respecter les droits des travailleurs locaux. L'idée, c'est pas de faire du outsourcing et de sortir dans des pays où c'est le Far West juridique. Donc l'idée, oui, c'est aussi de mettre en place un système qui soit honnête pour le travailleur et l'employeur.
Ouais, tout à fait. Oui, j'avais bien compris ça dans ce que disait Alex. Je l'avais entendu dans un podcast. Mais après, on comprend tout à fait qu'on a besoin de l'IA, que Deal a besoin de l'IA pour automatiser un petit peu ses process, faire des économies d'échelle, pour être compétitif avec n'importe quelle agence d'intérim locale, en fait, et pour pousser ça à l'échelle. Ok, super. Sam, donc tu utilises l'IA. Est-ce que toi, tu as une utilisation un peu secrète ou un petit truc pratique sur ton utilisation quotidienne de ChatGPT ou d'un autre outil?
L'utilisation secrète, c'est pas vraiment secrète. En fait, c'est une recommandation que je donne à mes collègues, à mon équipe, à mes étudiants. En fait, c'est en fonction de ton domaine, il faut s'adapter. Donc, bon, moi, je vais pas m'inventer médecin ou vétérinaire. Donc, je fais du droit. Donc, je vais parler du droit. Par exemple, l'utilisation secrète, moi, c'est toujours de baser d'une source solide. Donc, si, ouais. Donc, il y a dans GPT, enfin, ceux qui utilisent GPT-4 ou par exemple Open Justice ou d'autres IA spécialisés, il y a ce qu'on appelle des web readers, donc c'est un lien, enfin la machine peut lire un lien ou on peut télécharger un document. Donc moi, je pars toujours de l'idée que faut jamais demander des questions en pensant que la machine elle va être capable de trouver la réponse. Il faut l'accompagner énormément, et ça, en fait, c'est un vrai problème. Enfin, le problème du prompt, on a tendance à dire les gens ne savent pas prompter. Donc là, nous, notre gros projet de recherche aussi, c'est de faire un système, ce qu'on appelle de probing. Donc, c'est des systèmes de prompt guidés. Donc là, on travaille avec un labo, un collègue de le labo d'accès à la justice d'Harvard. Et en fait, on travaille avec plusieurs programmes d'aide juridictionnelle aux États-Unis et au Canada pour aider le justiciable, donc le monsieur tout le monde qui ne connaît rien en droit, à poser des questions complètement débiles à Open Justice et à les permettre quand même de trouver des réponses qui sont quand même fiables. Et ça, c'est un vrai problème dans l'IA aujourd'hui. Donc, un peu comme Google, tu posais des questions débiles il y a 10 ans, il trouvait des réponses débiles. Aujourd'hui, tu lui poses vraiment une bonne question bien mal écrite, il te ressort quand même une bonne réponse. L'idée de dire, les gens vont, on ne sait pas prompter, il faut éduquer les gens à apprendre à prompter. Ça ne va pas arriver, quoi.
Bien sûr. Non, mais tu as raison, tu en parlais tout à l'heure. On a trop... Les personnes, en fait, qui découvrent ces outils, en ce moment, ils passent quand même très souvent, ils démarrent en se disant que ça va être un peu le bouton magique qui va répondre à tous leurs problèmes. Et si, en fait, ils n'ont pas la réponse, alors qu'ils n'ont pas forcément formulé la question de manière entendable, souvent, ils sont déçus. Et ils peuvent même se décourager. Et je pense que ça, c'est hyper important de prendre le temps, hein, d'apprendre à prompter, d'apprendre à expliquer donc sa requête.
Expliquer, j'ajouterais aussi qu'au-delà de l'explication, ce qui est important aussi, c'est de donner des sources un peu de la même manière que tu recrutes un stagiaire qui est quand même assez performant, un mec qui a un bon cerveau. Mais si tu ne connais rien à ton domaine, il ne va pas être capable de sortir des éléments. Donc, en fait, il faut lui donner des textes, il faut lui donner des sources. Et là, par contre, à partir de ces sources, il est guidé, il sait sur quoi chercher, en fait. Le problème, c'est que ChatGPT a entraîné sur, 90, enfin, sur la totalité du web. Et on sait très bien que la totalité du web, il y a 90% de merde. Donc, à un moment, on peut pas estimer en fait que la machine soit capable de ressortir des éléments intéressants si on lui donne une quantité monstrueuse de data qui sont de qualité très, 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 très discutable.
Oui, bien sûr. Oui, garbage in, garbage out. Il faut prendre ça en compte. Ok, Sam. Alors, est-ce que tu peux nous, tu en as déjà parlé un tout petit peu, mais nous représenter un petit peu openjustice.ai, ce que c'est qu'un, c'est un LLM juridique, c'est bien ça, Sam?
Exactement.
Tu peux nous en dire un peu plus?
Nous, c'est un SLM.
SLM.
Alors,
c'est quoi le S, pardon?
Le small.
Small,
petit.
Ok.
Moi, petit, c'est quand même 13 milliards de paramètres. Hein. Mais GPT et Bloomberg et tout ça, c'est au-delà de 50 milliards. Donc, c'est différent. Ouais.
GPT-4, 100 milliards.
L'histoire du projet, en fait. Donc, l'idée, en fait, c'est un de mes doctorants en 2018. Lui, en fait, il travaillait, en fait, c'est un projet complètement différent sur l'IA prédictif. Et en fait, on avait un projet avec l'EIPO. L'EIPO, c'est l'Office européen de la propriété intellectuelle. Ouais. On leur a monté un système prédictif pour évaluer le risque de confusion au droit des marques. Télécharge de marque et la machine te sort. Voilà, il y a très. Donc, le projet, en fait, était plié en 6 mois. Donc, il a fallu qu'il se mette sur quelque chose d'autre et il s'est intéressé à la question du question-réponse. Donc, ce que les informaticiens appellent le QA, donc question answering. Et c'est un domaine qui fonctionnait quand même assez mal en 2019, faut quand même réaliser. Donc, on a évolué. Ce qu'on a fait, on a récupéré, on a travaillé avec un groupe d'étudiants et un groupe de chercheurs. On a récupéré des dizaines de milliers de questions qui ont été posées par des justiciables. Parce qu'après, nous aussi, l'objectif aussi, c'est d'avoir un outil qui est utilisé par les juristes, mais aussi à plus ou moins long terme, c'est un outil qui sera utilisé par les justiciables.
OK.
Donc, on a compilé à peu près des questions sur Stack Exchange, Reddit, des questions juridiques. En fait, les gens posent des questions, mais en fait, des questions qui sont formulées comme toi ou un non-juriste le formulerait, ce qui est important en fait pour nous.
Bien sûr.
Parce que ça fait partie de la formation de l'avocat aussi de gérer son interaction avec les clients. Okay. Donc, à partir de là, on a lancé donc une première plateforme en 2021 qui fonctionnait de manière assez correcte. C'était un peu un Google très amélioré. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, 2023, comme tu sais bien, ChatGPT a évolué. Donc les performances en matière juridique étaient très, très, très faibles. Donc là, l'idée, en fait, c'est de se dire, et là, pour l'instant, il n'y a pas de données encore. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du fine-tuning. En fait, on utilise plusieurs modèles. Donc, OpenJustice, ce n'est pas seulement un seul modèle. En fait, c'est plusieurs modèles à la fois qui sont testés. Donc, il y a ce qu'on appelle des LLM fine-tunés. Donc, des LLM qui sont donc pas… On utilise évidemment GPT, mais ce n'est pas le plus stable. On utilise Llama, qui est le modèle de Meta. On utilise aussi… comment il s'appelle
Mistral.
Et on utilise quelques autres qui sont vraiment open source. Parce que le problème, en fait, des autres, même Mistral, ils sont open source à moitié. Il y a certaines variables qui sont accessibles, mais ce n'est pas un système open source. Pour nous, c'est très compliqué. Si on veut faire quelque chose, en fait, si on veut discipliner un IA pour lui apprendre des réponses à raisonner, à exécuter un raisonnement juridique, c'est très compliqué si on n'a pas accès à la fondation du modèle. Donc ça sera une première approche. Après,
D'accord. Point très important, Sam. Voilà, tu veux avoir accès en fait à tous les poids du modèle de base pour avoir une explicabilité.
Ouais. Exactement. Sinon, c'est très compliqué parce que sinon, on ne pourra pas être capable de… Sachant en fait que ces modèles sont entraînés sur les données d'Internet c'est complètement différent de la façon dont une recherche juridique va être exécutée. On ne va pas aller chercher des données sur Internet. Peut-être un justiciable, oui, mais un juriste qui se respecte, il ne va pas aller chercher sa première réponse sur Google, peut-être rapidement si c'est un domaine qu'il ne connaît pas. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième approche, on va faire aussi du fine-tuning sur des petits modèles juridiques. Donc, il y en a qui s'appellent, tu en as peut-être entendu parler, il y a Orca, c'est un modèle qui a été développé par Microsoft. Donc là, en fait, fine-tuning, ça veut dire simplement qu'on va rentrer dans le modèle et on va réajuster, rééquilibrer les paramètres. Okay. Mmh. Donc là, en fait, il y a toute une discussion, tout un débat sur la qualité des datas, mais au-delà des datas, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est les paramètres. En fait. C'est que souvent, ces modèles, ils sont entraînés d'une certaine manière pour faire quelque chose. Et par exemple, je vais te donner un exemple assez basique, c'est qu'ils sont entraînés à ne pas être sceptiques. Donc, par exemple, en droit, c'est très problématique. Si tu poses une question, il y a un truc qui s'appelle le biais contrafactuel. Donc, si tu poses une question complètement débile à ChatGPT, en droit, par exemple, disons, est-ce que Justice Ginsburg, qui était une juge de la Cour suprême américaine, est-ce qu'elle a émis une opinion, dissenting opinion, sur telle affaire, sur l'affaire du mariage pour tous. Alors qu'en réalité, elle n'avait pas omis une opinion, elle avait une opinion qui allait dans la direction de la majorité. Okay. En fait, la machine, donc ChatGPT, ne va pas remettre en question, va produire une réponse qui est basée sur ta question qui est à la base erronée. Donc ça, c'est un vrai problème. Et là, ce n'est pas un problème de data, en fait, c'est un problème de paramètres. Ouais. C'est un problème de... Donc ça, en fait, c'est ça qui est important.
ChatGPT, il veut te répondre.
Il veut te séduire.
Il peut halluciner, il est aléatoire. Et ça, oui, ça, c'est contraire à ce que toi, tu recherches.
Alors, en fait, le juriste, et surtout, en fait, aussi, il faut réaliser que... Bon, après, moi, j'ai toujours un rôle d'éducateur. Pour moi, c'est important. Je me dis, en fait, on est en train de mettre en place, on va mettre un outil entre les mains de nos étudiants. Mais en fait, s'ils ne sont pas remis en question, s'ils ne sont pas challengés, c'est très compliqué pour le futur de la formation des juristes. Donc, c'est important, en fait, d'avoir des systèmes qui ont des barrières, enfin, des guardrails pour pouvoir les protéger, pour pouvoir aussi orienter l'utilisateur dans la bonne direction. Là, en fait, les modèles, ils sont formés pour faire d'autres choses, d'autres tâches qui sont bien, mais c'est pas ce dont on a besoin.
Oui. Je comprends bien. Donc, un gros besoin. Bah, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est bien que tu sois là justement pour nous expliquer tout ça. Je pense que tu as raison. Il faut communiquer très lourdement et en particulier sur ce sujet du droit. Il y a un exemple qui a fait beaucoup parler il y a quelques mois. Tu sais, tu l'as forcément vu passer. C'est un avocat new-yorkais.
Il y en a un au Canada aussi.
Ah, bah, voilà. Donc, il s'est fait sanctionner pour avoir utilisé des faux cas de jurisprudence, ouais, de jurisprudence générée par ChatGPT, en fait, qu'il a rapporté à la cour. Hein, donc là-dessus, en fait, je ne sais même pas s'il était vraiment au courant du fait qu'il utilisait des faux cas, en fait, ou si simplement il a essayé de faire traiter sa demande par ChatGPT, qui, pour le coup, comme tu l'as dit, n'est pas sceptique et s'est empressé d'essayer de lui répondre et de le séduire. Quoi, c'est ça.
Donc, c'est un vrai problème. Donc là, en fait, ça, c'est sur le travaux des recherches, soit des techs qui sont sérieuses, enfin des startups ou même des techs plus sérieuses comme Lexis ou Thomson, ou je sais que tu veux parler de Harvey aussi, mais aussi nous, notre rôle et le but aussi d'Open Justice, c'est de reparamétrer. Donc, on a trois approches, juste pour revenir à ta question, peut-être pour les auditeurs, pour pas que ce soit trop déstructuré. Donc, on va utiliser donc les LLM classiques et on va faire du fine-tuning. Fine-tuning, c'est du réajustement pour essayer de voir en fait comment ces LLM performent, ces LLM spécialisés en droit vont performer comparé à un LLM généraliste non fine-tuné. Deuxième approche, on va utiliser des petits modèles juridiques. Donc, comme Orca, on va les fine-tuner. Et troisième approche, on va créer notre propre… On a créé notre propre small language model pour exécuter des tâches juridiques. Et en fait, Open Justice sera, entre guillemets, sera animé ou nourri par ces trois… Il est nourri par ces trois modèles. Et aussi, nous, en tant que chercheurs, notre but, c'est de pousser ces trois modèles à leur limite pour comparer la performance et de voir aussi qui performe le mieux. Et donc là, il y a un quatrième modèle qui arrive. Et là, le modèle, c'est le modèle customisé. Donc là, on a fait une collaboration avec quatre partenaires industriels, dont évidemment, il y a Deel. Parce que Deel, c'est un peu notre premier partenaire industriel numéro un. on a un cabinet d'avocats qui s'appelle Dentons, qui est un des plus gros cabinets d'avocats au monde, et on a quelques cabinets canadiens, donc Osler, Miller Thompson, qui sont des gros cabinets. En fait, l'idée là, et là pareil, il y a énormément de bruit sur cette question des modèles customisés. Donc, tu as probablement entendu parler des AI agents, donc tous les GPT qu'on voit sur. Pour les abonnés de GPT-4, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent GPT-4.
Très peu. Moins d'un pour cent du trafic de OpenAI. Ouais.
Donc c'est pour ça que je l'explique, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont juste utilisé ChatGPT classique. Mais donc là, maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas GPT-4, il est possible de créer des pseudo-IA spécialisés ou customisés. Donc là, la question aussi, le but de cette recherche, donc cette collaboration, donc c'est très problématique pour deux raisons. La première chose, c'est que pour les entreprises, il est hors des questions de mettre des data propriétaires dans ce genre de système. Okay. Et la deuxième, donc nous, en fait, là, ce qu'on a créé, c'est un modèle distribué qui permet aux cabinets d'avocats d'utiliser Open Justice en open source sans partager leurs data avec le reste de la communauté open source. Donc ça, c'est important pour eux. Ouais. Et la deuxième chose aussi, c'est on ne sait pas si ça marche. Donc, en fait, on est tous là à dire, on va faire des IA customisées, mais il n'y a aucune data, il n'y a aucune étude qui montre aujourd'hui que ces IA sont capables de s'adapter à des data propriétaires. Donc, d'où l'objet de la recherche et d'où l'objet du projet.
D'accord, très bien. Donc, pour l'instant, tu n'as pas encore pu comparer les performances en fait, de tes modèles par rapport, par exemple, à GPT-4, modèle fondationnel généraliste sur des questions que tu aurais posées. Quoi.
Alors, pas encore. On a publié récemment une étude dans laquelle on compare la performance d'Open Justice avec GPT-4. Et en fait, c'est important aussi. Je trouve que et c'est un message en fait, pour tous les créateurs d'IA. C'est important pour la communauté de faire preuve d'honnêteté scientifique. Parce que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que Open Justice est plus performant que ChatGPT, mais de manière très marginale. C'est vraiment très, très limité. Bon, après aussi, c'est le début. C'est le début de l'entraînement de ces modèles. Mais c'est important aussi pour les partenaires, les clients, les consommateurs d'être honnêtes en fait, avec la performance de ces modèles. Et il ne faut pas vendre du rêve et du vent alors qu'il n'y en a pas.
Ah non, mais Sam, merci de faire passer ce message. Je crois que tu es un des premiers à dire ça sur ce podcast. Mais c'est vrai que très souvent, il y a des start-upers et on comprend, hein, c'est difficile de se faire une place dans l'écosystème face aux GAFAM et tout ça. Et donc, et après, la mesure des LLM est un exercice compliqué, périlleux, sur lequel il n'y a pas vraiment encore de repères. Et donc, c'est vrai que très souvent, ils ont tendance en fait à tordre un peu les résultats, mais même les plus grands, hein, je pense en fait, même Google, même Meta, tu peux te dire qu'ils tordent un peu les résultats, ou en tout cas, ils vont présenter ceux qui avantagent un petit peu leur modèle. Et comme derrière, c'est pas forcément très lisible et que le benchmark est pas forcément homogène, quoi, et fixé, souvent, il y a peut-être un petit manque d'honnêteté ou de clarté.
Voilà. Ouais. Non, il y a un manque à ce niveau-là. Et la réglementation, elle n'est pas là pour faire ça parce que elle n'est pas adaptée. Il faut en fait des benchmarks de l'industrie. En fait, il faut que chaque industrie… Et en fait, ce qui va être difficile aussi, c'est chaque industrie va devoir mettre en place ses propres benchmarks, parce que la medtech, elle va être très différente de la legal tech. Donc ça, c'est important aussi, mais on va y venir. Maintenant, après aussi… C'est vrai que tu as bien fait de rappeler ce point. Peut-être que pour moi, nous, on a un labo de recherche, on est indépendant, on a notre financement, on a notre partenaire industriel. Donc, c'est peut-être facile pour nous de dire, voilà, parce que nous, on n'est pas des start-upers. Mais je comprends pour les start-upers de vendre du rêve, parce que ça permet de vendre. Il y a les VC derrière, il y a peut-être des shareholders, il y a peut-être des actionnaires. Donc, c'est important. Mais il faut mettre en place des benchmarks industriels pour vraiment déterminer. Je vais être un peu cru, mais ce qui est de la merde, ce qui est de la qualité, quoi.
Complètement. Excellent, donc ce Open Justice. Donc, bravo, c'est une super initiative. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je te parlais en préparant aussi de Bloomberg GPT. J'ai vu un tweet récemment là, de Ethan Mollick, la professeure de Wharton, qui disait que une expérience assez controversée sur l'IA, c'est Bloomberg qui avait entraîné un modèle 3.5 de GPT. On en avait entendu parler. Hein, c'était, je crois, ils ont mis des centaines de millions de dollars hein, sur le fine-tuning de ce modèle. Tout le monde se disait, tiens, d'ailleurs, ça va leur donner un avantage extraordinaire parce qu'ils ont un accès à la data qui est dingue. Et aujourd'hui, en tout cas, on revenait un petit peu dessus en se disant que, en comparant ce modèle fine-tuné Bloomberg sur GPT 3.5 à un GPT 4 sans spécialisation, en fait, GPT 4, le modèle fondationnel le plus évolué d'OpenAI, avait des meilleures performances. Ouais. Et donc ça, c'est ouf. Mais dans tous les cas, il faut essayer, il faut regarder pour pouvoir se faire un avis, quoi.
Alors, je ne suis pas un expert de Bloomberg GPT, mais si je ne me trompe pas, je ne suis pas certain que c'était du fine-tuning. Je pense qu'ils ont créé un modèle fondationnel. Ils ont créé un modèle from scratch, donc vraiment.
T'as raison. Donc, ils l'ont entraîné.
Ouais, donc c'est en fait c'est ça qui était plus choquant. Ouais. Et c'est vraiment, je suis un peu au courant parce que le co-créateur d'Open Justice, c'est lui qui a écrit l'étude, s'appelle Xiaodan Zhu. Et en fait parce que c'est important pour nous parce qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est riche, généralement en finance, sont quand même l'industrie financière, c'est quand même assez innovant. Donc, si quelque chose va se passer, ça sera dans ce domaine. On regarde généralement assez ce qu'il fait parce que s'il y a quelque chose de très innovant, ça ne va pas se passer dans le droit ni en médecine. Les médecins sont vraiment plus innovants que les avocats, c'est certain. Mais c'est vrai que ce qui était plus choquant, c'est un modèle qui a été un modèle fondationnel et les performances ne sont pas exceptionnelles. Et là maintenant, donc la tendance actuelle, c'est de dire bon, on va peut-être essayer de faire plutôt du fine tuning, d'utiliser déjà ce qui existe déjà, plutôt que de créer des modèles fondationnels. Maintenant, après, il faut réaliser que c'est seulement une étude, c'est un projet. C'est vrai. Et après, ce qu'il y a de réaliste dans cette étude, en fait, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions qui vont avoir la capacité de faire des modèles fondationnels.
Ouais.
Voilà. Même Lexis, qui est quand même une institution assez établie, Thomson l'ont pas fait là. Ils ont lancé Lexis Plus aux États-Unis, qui est un IA juridique génératif. C'est pas du modèle fondationnel. Ils ont même pas fait du fine tuning d'ailleurs. Ouais. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un RAG. On peut en parler après. Mais bon, pour revenir à Bloomberg GPT, faut aussi réaliser que et c'était le cas avec BERT, c'était le cas avec tous les IA précédents. Il y a des 90% des projets IA sont balancés à la poubelle. Et nous, on en a planté un paquet. Le projet dont je te parlais avec l'armée canadienne, on a essayé de faire un IA qui permettait de détecter les risques de harcèlement. Ça marchait pas. On a essayé de monter avec une ville canadienne très connue, une ville importante. On a essayé de mettre en place un système d'optimisation des dommages et intérêts pour les accidents de la route. Ça ne m'a pas marché. Il y a énormément de projets, il faut réaliser, qui ne marchent pas, d'autres qui marchent de manière incroyable, comme le projet qu'on a avec Deal sur la requalification des travailleurs. C'est un IA qui performe extrêmement bien, avec un niveau de précision qui est extrêmement explicable. Donc, il faut aussi mettre les choses dans un contexte. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher en droit. Ça ne veut pas dire que le fine-tuning ne va pas marcher. Mais ça veut peut-être dire, c'est peut-être, en tous les cas, c'est un indicateur important.
Ouais, bien sûr. OK, super cool. Tu me parlais du RAG tout à l'heure, Sam. Donc, tu trouves que c'est une option intéressante, donc Retrieval Augmented Generation, pour superposer donc au modèle des données dans lesquels on veut qu'il aille taper, en fait.
Ouais, mais il y a quand même pas mal d'études, de données qui montrent que c'est des systèmes qui marchent très bien. Donc, ça, très bien, non, peut-être pas, mais en tout cas, qui ont des performances qui sont quand même assez respectables. Et d'ailleurs, en fait, beaucoup d'institutions qui ne veulent pas se lancer dans le fine-tuning parce que aussi, le fine-tuning, il y a des risques aussi. Le fine-tuning, par exemple, Lexis, c'est que c'est pas basé sur des entretiens structurés que j'ai eu avec des collègues d'Alexis, mais d'après ce que j'ai entendu, ils veulent pas faire de fine tuning encore parce que ils ont peur d'un potentiel data leak. Si on se met à travailler avec des modèles et pour faire du fine tuning, il va falloir nourrir des données aux modèles, et c'est des modèles qui ne sont pas propriétaires, enfin c'est des modèles qui appartiennent pas à Lexis. Donc c'est un enjeu qui est plus compliqué pour des grosses institutions dont le le business model basé essentiellement sur la data qu'ils détiennent. Donc ça, c'est important. Mais donc, le RAC, c'est une bonne solution intermédiaire. Il y a quand même beaucoup de problèmes parce qu'en fait, on ne revient pas au problème originel qui est la fondation du modèle, les paramètres du modèle. Donc, par exemple, là, ce qu'on a vu, il y a quand même pas mal de nouvelles études. C'est assez anecdotique, mais c'est quand même significatif sur les performances de Lexis Plus aux États-Unis. Donc, il y a quand même un certain nombre d'hallucinations qui sont quand même assez problématiques. Mais c'est des performances qui sont beaucoup mieux que GPT Generalist. Mais en même temps, en fait, on revient au même problème. En fait, si ces systèmes-là sont basés sur des paramètres et des data fondationnels qui fonctionnent mal, on peut lui donner des data de très grande qualité par le biais d'un RAG. Ça améliorera la performance de manière marginale, mais ça ne va pas changer le problème de base. En fait, à un moment, je pense qu'il va falloir qu'on mette les mains dans le cambouis, enfin, et que ces organisations mettent les mains dans le cambouis et qu'elles entraînent des vrais modèles très plus sérieux.
Ouais, bien sûr. On parle très souvent de Harvey, ici. Je crois qu'il y a Gemini en France, qui est un acteur qui essaye un peu d'être un copilote du droit. Harvey, il me semble que ça utilise le modèle GPT-4, l'API de ChatGPT. Et donc, c'est un copilote pour les avocats, pour les super firmes d'avocats. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne bien, que ça devient un outil indispensable ?
Alors, c'est très compliqué pour moi de parler de Harvey parce qu'il y a énormément de bruit, mais c'est du bruit qui a été lié principalement à leur levée de fonds et leur partenariat avec OpenAI.
Ouais.
Non, sur la performance et la qualité, moi, d'après ce que j'ai entendu, mais encore, c'est très anecdotique de la part de collègues, des copains qui sont associés dans des gros cabinets ici à Toronto ou à Montréal ou à New York. Bon, c'est des performances qui sont équivalentes à Lexis. C'est un RAG, c'est pas mal maintenant. Après aussi, c'est très compliqué. Moi, c'est pas mon rôle de critiquer ou d'évaluer la qualité de tel ou tel produit, parce que surtout que je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas. Et je ne sais même pas aussi. C'est plus important au-delà de l'essayer de voir en fait quels sont les comment le produit a été créé. Et ça c'est des entreprises donc avec des technologies propriétaires et ils ont raison, ils veulent pas partir et on n'est pas capable de savoir les détails de la constitution du modèle. Maintenant, ce qui est en tous les cas ce qui semble être le consensus en fait, et c'est vrai pour Thomson, le nouveau ici. Au Canada, aux États-Unis, Thomson a créé un produit qui s'appelle Copilot. Donc, c'est assez similaire de Lexis et assez similaire de Harvey. Ce qui me semble être la situation actuelle, en tous les cas, le consensus, c'est que c'est des systèmes qui sont des modèles un peu améliorés de Lexis ou de Google juridique. Mmh. C'est un peu des systèmes assez statiques. C'est un peu un modèle de RAG comme à peu près ce dont on parlait avec Lexis. Après, mais peut-être c'est pas le cas, donc c'est vraiment très compliqué parce que là c'est purement spéculatif et on revient toujours au même problème. Et ces entreprises ont probablement pas le temps parce qu'elles sont prises de vitesse par le marché. Et c'est vrai que c'est plus facile pour des institutions de recherche de se poser et de créer des nouveaux modèles parce qu'on est c'est notre rôle, eux, leur business model, c'est de livrer. Donc là, elles ont une pression et ça fait des années qu'elles sont pas vraies, ces entreprises-là ne se sont pas intéressées à l'IA. Et là, soudainement, elles doivent livrer des nouvelles performances qui sortent du surréaliste. Donc, c'est très compliqué au fait. Et je pense que Harvey, c'est le même problème. Ils n'ont pas le temps. Là, ils sont dans une espèce de rouleau compresseur de la livraison qui est important. Maintenant, après aussi, il y a un deuxième problème. Donc, il y a le problème de l'utilisation d'un modèle fondationnel qui a des paramètres qui sont questionnables. Donc, ça, on en a parlé. Mais le deuxième problème, en fait, dans le monde du droit, et ça, c'est un domaine qui me surprend un peu parce qu'on n'en parle pas, c'est le fait qu'en fait, ces modèles sont one size fits all. Enfin, je ne vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme et parler en anglais tout le podcast, mais en fait, c'est des problèmes, c'est des outils qui sont assez statiques.
Ouais.
Qui s'adaptent en fait et aussi qui sont entraînés seulement sur la donnée juridique. Ce qui est très problématique quand tu réfléchis que dans 90% dans certains domaines juridiques, pas tous, mais donc le droit du travail, la responsabilité délictuelle, le droit de la consommation, en fait 90% de ces de ces problèmes sont résolus par la voie de la négociation. Et ce qui fait la force de ces super firmes, c'est la donnée sur laquelle elles sont assises. Donc, ces données de négociation. En fait, c'est des modèles. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que pourquoi on s'attache encore à des IA qui sont entraînées seulement sur la donnée juridique, alors que ces cabinets d'avocats sont assis sur des données qui sont beaucoup plus intéressantes et qui font leur force de frappe et qui sont aussi et qui justifient aussi leurs honoraires assez élevés. Donc ça, ouais, c'est un élément qui me perturbe un peu. Je vois en fait les principaux acteurs de la tech juridique sérieuse se concentrent encore 90% sur faire des modèles qui sont one size fits all. Donc tous les avocats vont avoir au même outil. Et ils vont pas pouvoir récupérer de la data qui est intéressante sur leurs propres données. Et ça, c'est un élément assez limité.
D'accord. Donc oui. Et ça, il y a des boîtes qui travaillent là-dessus. C'est un peu l'enjeu de une boîte qui s'appelle Adaptive. Ouais, ouais. C'est un peu l'enjeu de la personnalisation en effet. Et je pense que ça va être un très gros sujet sur 2024.
Exactement.
T'as raison. Et derrière, on va voir aussi de l'autre côté si ces business continuent à se développer par verticaux, hein, et on va comparer avec beaucoup d'intérêt leur performance par rapport au modèle fondationnel qui peut tout faire. Sam, j'ai deux questions pour aller un peu plus loin aussi. C'est aujourd'hui, le futur de l'IA, grosso modo, générative, c'est quand même, selon moi, tu vois, les grandes boîtes de l'IA qui le décident. C'est OpenAI, c'est Google, c'est Anthropic et les actionnaires. C'est un sujet qui est majeur, on parlait d'une révolution tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est normal ou est-ce que tu penses que tu vois la société civile, les États devraient un petit peu plus s'en saisir?
Je pense que, après, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, évidemment, mais c'est un peu au-delà de mon domaine d'expertise. Mais je peux émettre une opinion. Donc, ça ne sera qu'une opinion et c'est une opinion qui n'est pas extrêmement informée. Donc, la réponse rapide, c'est oui, évidemment qu'ils doivent s'en saisir. Maintenant, le vrai problème, et là, on le voit par la réglementation de l'IA
Les AI Act, notamment.
Qui va rentrer en vigueur, je pense. Je ne sais pas s'il est entré en vigueur ou il va rentrer en vigueur récemment.
En 2025, il entre en vigueur en 2025.
Ouais. Donc après, encore, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais c'est apparemment un texte de loi qui manque d'agressivité. Ouais. Mais à juste titre, en fait, parce que et je pense qu'on est toujours dans ce problème de trouver en fait un régime juridique qui va permettre de réglementer des technologies qui exécutent des tâches qui n'ont aucun rapport. En fait, voilà, l'IA juridique et l'IA médicale vont avoir des rôles, mais qui n'ont aucun rapport. Donc, en fait, au lieu de penser à un système plus top-down, pyramidal, l'idée, en fait, ça serait plus de mettre en place des benchmarks qui émergent de l'industrie, soit des par exemple les barreaux. C'est une discussion. La semaine dernière, j'étais au barreau du Canada et on essayait d'en parler avec les collègues, mais la réglementation, elle va sortir de chaque industrie parce que les enjeux vont émerger de manière totalement différente d'une industrie à une autre. Donc ça, je pense que c'est vraiment la vraie faille en ce moment, le maillon faible en fait de la réglementation de l'IA aujourd'hui.
Je pense que c'est clair. Ça veut réguler les applications et pas la technologie, quoi. Enfin, pas le modèle, quoi. Comme si en fait on régulait du code informatique, tu vois. Enfin.
Ouais, c'est assez vague en fait. Enfin, les textes, l'explicabilité, c'est tous les concepts qui ont été mis en place par la réglementation de l'IA Act et avant le RGPD, c'est des concepts qui sont importants, mais je pense que d'un point de vue juridique et après d'un point de vue judiciaire, parce qu'ici, il faut après aussi penser à l'application de ces textes juridiques par les cours. Je pense que ça va être des questions qui sont assez délicates. On va demander à des juges, on va demander d'abord probablement à la Commission européenne d'exécuter ces textes juridiques et après peut-être la Cour européenne de justice, mais après aussi, il faut penser aussi aux cours nationales. Donc, je pense qu'il y a des éléments et je pense qu'on n'est pas équipé et ça c'est un vrai enjeu, Mais en même temps, après, mais en même temps, ça ne veut pas dire que, pour revenir à ta question originale, ta première question, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'impliquer, la société civile ne doit pas s'impliquer. C'est des questions qui sont extrêmement importantes et l'État ou le régulateur doit avoir un rôle. Maintenant, la façon dont on le fait, je pense qu'on est un peu dépassé par la situation, mais c'est un peu normal en même temps, ça va très vite. Les entreprises elles-mêmes sont dépassées par la situation, donc a fortiori le régulateur.
Ouais, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Alors, autre question sur laquelle je veux avoir un petit peu ton expertise, enfin ton feeling. Est-ce qu'on doit donner une personnalité légale à une IA? Tu sais, je dis ça parce que, tu sais, on avait vu régulièrement, on voit à Singapour, tiens, il y a une IA qui fait partie d'un board d'une entreprise. Ouais. Ensuite, en Arabie Saoudite, je crois que ça avait été fait. Et donc, ces IA, on va dire qu'en tout cas, il y a un niveau d'intelligence qui est de plus en plus important. Ensuite, de plus en plus de capacités de généralisation. Est-ce que cette question se pose ou va se poser, quoi, selon toi?
Alors, je vais te donner deux réponses, une réponse d'un point de vue juridique et une réponse d'un point de vue technique, sachant que je ne suis pas un ingénieur de formation. Mais donc la première réponse, c'est… Bah déjà, dans les deux cas, la réponse est non. La première réponse, non, c'est que d'un point de vue technique, même si l'IA fait des choses qui sont respectables, qui sont même impressionnantes, après, jusqu'à preuve du contraire et à partir de ce que j'ai vu, c'est pas des entités qui sont autonomes. Donc, pour moi, c'est des entités d'assistance. C'est pas de, y a pas de, elles sont drivées par des requêtes. Donc, je vois pas en fait. J'arrive pas à comprendre. Mais en fait, c'est même pas technique dans la technique de l'IA. C'est d'un point de vue même.
Ça reste un outil, quoi. Ça reste
un outil. Enfin, je vois pas en fait. Pour là, j'ai pas. On n'a pas vu encore de robots qui soient capables de prendre des décisions totalement autonomes. Donc à partir de là, en fait, j'arrive même pas en fait à comprendre. La question se pose même pas. Enfin, pour moi, une entité autonome, elle est capable. Et là, je pense, c'est pas du juridique, c'est pas de l'IA, c'est une norme sociale. Pour moi, la question, si tu as une personnalité juridique, à partir du moment où tu es complètement autonome. Donc, ouais. Est-ce que tu te lèves le matin, tu payes ton loyer, tu as un rôle dans la société? Là, pour moi, ce n'est pas le cas. Okay. Donc, ça, c'est la première question et la première réponse qui m'amène à répondre non. Deuxième question sur la partie, l'aspect juridique. En fait, il faut pas réinventer la roue. On a un système en droit de responsabilité des produits défectueux qui marche très, très bien. Et il faut se reposer sur ce régime juridique dans l'hypothèse où un IA génératif ou un IA, voitures autonomes, si elles dérapent, c'est déjà en fait un système juridique, un régime juridique qui permet de résoudre ce genre de choses. Il y a des évolutions, il y a des adaptations, mais à aucun moment, j'arrive pas en fait à sentir l'existence d'une personnalité juridique qui est liée en fait à l'existence d'une entité autonome. Donc là, pour moi, les deux réponses d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, je pense que c'est non. Après, peut-être que mais la question peut-être se posera à partir du moment où les IA auront eu un rôle totalement indépendant de notre volonté dans la société. Voilà. Et là, on n'est pas là du tout. Donc en fait, la question, pour moi, elle se pose vraiment pas, quoi.
Je comprends tout à fait. Et je pense que la notion d'autonomie là que tu évoques, c'est déjà une clé par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Ok, super. Est-ce que tu penses que l'IA générative, ça va nous amener potentiellement à des grandes découvertes, des grandes possibilités au niveau scientifique notamment?
Après, j'espère. Peut-être que je suis biaisé parce que c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup investi de temps. Je pense que oui. Mais non, après, c'est pas basé sur des données empiriques. Après, on a déjà fait. Non, enfin, je pense que déjà ce qu'on a les avant. Pour l'instant, c'est vrai que on a beaucoup de on parle beaucoup de la technologie en tant que telle, c'est qu'il n'y a pas énormément d'études qui montrent que ça a permis de créer des applications ou permettre de faire des découvertes incroyables. Mais c'est vrai que ça serait bien, en fait, dans le futur. Et je pense que ça revient à la discussion qu'on avait au début sur l'évaluation de la performance. En fait, c'est important. En fait, on met des millions de dollars sur ces technologies, sur sa recherche. À un moment, il va falloir qu'on s'assied et se dire, il est où le ROI, là? Il est où le retour sur investissement? Quelle est la performance? En quoi ça nous... Quel est le gain de productivité? Quels sont les dommages que ces technologies ont causé? C'est parce qu'à un moment, mais là, c'est trop tôt. À un moment, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on y réfléchisse sérieusement. Enfin, je parle en tant que communauté, les communautés spéciales, enfin, ouais. Professionnelles et la communauté scientifique de manière générale.
Ok, très bien. Tout à l'heure, je t'entendais parler des prédictions sur lesquelles tu as pu travailler, notamment sur des villes ou pour l'armée, donc au Canada. Et il y a une image qui me venait en tête très fortement. C'était celle, tu sais, du film Minority Report. Tom Cruise, inspiré d'un livre de Philip K. Dick. Ouais. Où, grosso modo, ben, c'est l'unité pré-crime avec les pré-cog et tout. Et donc, en fait, on se retrouve à se faire accuser de crimes qu'on n'a pas encore commis. Est-ce que tu penses qu'on peut y arriver?
C'est évidemment un risque. Je suis en train d'écrire un papier sur cette question, en fait, et même... mais c'est plus... Enfin, le vrai problème, je ne pense pas que ce soit... D'être accusé ou d'être même emprisonné d'un crime qu'on n'a pas commis. Il y a plusieurs problèmes déjà qui ont été prouvés. Enfin, c'est les biais, d'ailleurs les biais de qui sont appris par les IA. En fait, l'humain est lui-même très biaisé. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce scandale qui a été, je crois que c'était en Californie ou je ne sais plus dans quel état américain, ils ont utilisé un IA. Pour aider les juges à déterminer les peines criminelles. Il s'avère que les personnes de couleur prennent pour le même délit ou le même crime, prennent en moyenne 30% des peines qui sont 30% plus sévères que les blancs.
Waouh, c'est un sacré biais. Celui-là, il est lourd de conséquences.
Violent. Donc ça, c'est plus ce genre de choses qui m'inquiète. Donc après aussi, on peut et c'est très problématique parce qu'en fait, après ces IA sont vendues à des avocats et on peut se dire, mais attends, mais le plus simple, c'est rectifier le biais, pas dans l'IA, ok. Mais le problème, c'est que l'IA, il est entraîné sur les données des décisions de justice qui sont elles-mêmes biaisées. Donc moi, si je suis avocat, je veux savoir quel juge je vais être biaisé pour pouvoir prendre ça en considération. Donc, en fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Tu vois. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on a la solution technique, mais on ne veut pas la mettre en place parce qu'on veut garder le biais dans l'IA pour permettre de partager cette connaissance à l'utilisateur. Donc ça, c'est très compliqué. Après, le deuxième problème, et ça, je suis plus sceptique et c'est une critique... qui a été émis sur certains de mes travaux, c'est on parle d'un peu de l'ossification du droit, en fait. L'idée, c'est de dire, si on utilise des IA prédictifs et si les juges utilisent, par exemple, mes IA prédictifs ou les IA prédictifs d'autres organisations, en fait, il y aura une espèce de biais de confirmation. Donc, il n'y aura pas d'évolution du droit. Moi, j'ai quand même des doutes sur ça parce que je me dis, bon, les juges ne sont quand même pas débiles. Si une décision, une prédiction, elle est mauvaise, ben, évidemment, il va falloir la changer, quoi. Il faut faire des divergences, il y aura l'évolution de la jurisprudence. Ça, j'ai un peu plus de mal. Après, voilà, c'est une critique qui a été émise et il faut en discuter, il faut y réfléchir.
Oui, qui s'entend, mais je comprends. Ok, super, Sam. Sam, dernière question. Est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander?
Alors, j'ai pas un en particulier que j'aime beaucoup, mais bizarrement, je n'aime pas les livres de je suis pas très science-fiction IA ou prédictif. J'adore les science-fiction plutôt visite de l'espace. Donc c'est vraiment rien à voir avec ça. J'en ai un paquet, donc je pourrais pas les donner, mais c'est vrai que je reste plutôt assez loin des des dystopies un peu stressantes sur la fin du monde et tout ce qui est lié à des machines. Mais par contre, j'aime bien les invasions par les extraterrestres ou les visites de l'espace.
t'as bien raison. Mais c'est vrai qu'on... C'est vrai qu'on... au final, ben, tu vois, on s'est quand même pris beaucoup de films dystopiques. Hein. C'est ça qui marche, hein, les blockbusters. Et oui, oui, les voyages dans l'espace, c'est pas mal aussi. Tout à fait. Ben, en 2001, l'Odyssée de l'espace, mais avec quand même de l'IA à la fin qui fait peur. Ouais. Avec Hal. Sam, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, pour ce podcast. C'était un plaisir de faire ça avec toi. On va suivre tes travaux avec Open Justice notamment, c'est hyper cool et merci beaucoup de nous avoir apporté cet angle du droit donc sur l'IA, c'était passionnant.
Cool, avec grand plaisir Nicolas.
Merci Sam, à bientôt, ciao.
À bientôt, ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoir IA jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoir IA. À bientôt.